Rebienvenue à l'émission La Complainte du Travail. On vous rappelle qu'aujourd'hui, notre émission porte sur le profilage. Alors, tout à l'heure, avant la pause, on a vu qu'il y avait plusieurs types de profilage. Profilage politique, profilage social, profilage racial. Alors, Manon, j'aimerais que tu m'expliques, c'est quoi l'impact sur les droits de ces personnes-là qui sont victimes de ce profilage?
Bon, écoute, du fait d'être victime de répression policière, puis de ce qui s'ensuit, que ce soit les constats d'infraction, la détention, ces choses-là, c'est vraiment devenu une mesure abusive de contrôle. Et ça porte atteinte, parce que c'est sérieux, il y a quand même des organismes, je l'ai dit tout à l'heure, la Ligue et autres qui s'y sont attaqués, la Commission des droits de la personne, ça porte atteinte à la liberté d'expression. Hein? On t'empêche de dire ce que tu penses, et surtout, on voudrait que tu dises uniquement si tu dis la même chose que le dirigeant. Mm-hmm. Ça fait référence aussi au droit de manifester, qui est reconnu. On a le droit, on n'est pas dans un pays totalitaire ici, là. On n'est pas sous une dictature, on a encore le droit au rassemblement puis d'exprimer lors de nos rassemblements nos divergences, au droit à la liberté de mouvement. Quand on détient des gens, ce n'est plus la liberté du mouvement. Le droit à la dignité puis le droit à l'égalité. C'est vraiment les droits qui ont été ciblés dans les rapports qu'ont émis la Ligue et d'autres organismes du genre. Tu sais, tu l'as dit tantôt, puis c'est important de revenir là-dessus. Le ciblage là, de ces personnes-là, en fait, là, c'est pas sur une menace réelle. C'est vraiment sur des craintes et des peurs, parce qu'il n'y a pas vraiment d'acte de reprocher la plupart du temps. Tout le monde a le droit de prendre la rue. Ce n'est pas une menace que de prendre la rue. Mais si on t'arrête lorsque tu prends la rue, c'est parce qu'on dit qu'on a peur. On a peur, on a peur que tu casses des vitres. Il n'y a même pas eu d'acte répréhensible encore. Si tu es un jeune victime de profilage racial dans un parc, qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu es juste un jeune d'une minorité visible puis d'être dans un parc? Alors, c'est vraiment le déni des droits qu'on a, puis qui sont vraiment d'appliquer un traitement différent. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment, on cible, puis quand on parle de profilage, c'est quand certains individus, j'ai donné l'exemple des jeunes noirs, des personnes itinérantes, des manifestants, des altermondialistes et autres de tout acabit, reçoivent des contraventions ou sont détenus, tandis que d'autres personnes qui feraient les mêmes gestes, eux autres n'auraient rien.
C'est très arbitraire, là.
C'est très arbitraire. Effectivement, c'est pour ça qu'on parle vraiment d'un traitement différencié et de discrimination. À ce moment-là, ça vient contre notre charte, là. On a quand même une charte, là, nous autres, là, qui nous enchasse tout ça, là. Puis je viens de faire le lien de profilage, et j'ai présenté les trois types, mais on pourrait aussi parler, parce que j'ai parlé beaucoup en termes de répression policière. Mais il y a un profilage qui se fait ailleurs aussi. Quand tu vas à l'hôpital et que tu t'aperçois, parce qu'une personne est prestataire de la sécurité du revenu, une personne à l'aide sociale, qu'elle va dans un lieu comme l'hôpital ou autre et qu'elle est traitée d'une autre façon, parce qu'on le voit là, dans les yeux ou autre, ça paraît, là, hein, on le sait. Ça aussi, c'est un profilage. Ce n'est pas nécessairement une mesure répressive à ton égard, mais il y a quand même un profilage, un préjugé. Tu représentes quelqu'un, tu n'es pas quelqu'un ou envers les personnes immigrantes. Hein, on ne les veut pas dans notre pays, on ne voudrait donc pas les soigner non plus. Et que ça ramène à l'exclusion puis la discrimination. On voudrait les enlever, les exclure du reste de la société. On veut les discriminer par rapport au reste de la société. Puis ça, c'est le lot des personnes qui ne sont pas du bon bord de l'ordre moral puis de l'ordre économique. Ils dérangent, ils sont dérangeants. On ne veut pas les voir. Tu l'as dit tantôt, le phénomène de pas dans ma cour. Pourquoi j'aurais à côtoyer, à voir ces gens-là? Pourquoi il y a des quartiers qui l'ont fait, là, qui ont demandé l'élimination de toutes les choses qui dérangeaient le beau paysage, qui venaient piétiner le belle pelouse? Les gouvernements le font aussi au niveau des personnes qui vont critiquer leur politique puis qui vont dire non, ces gens-là, on ne veut pas leur laisser le droit de parole. On va choisir qui a le droit de parler dans notre beau pays.
Et j'imagine qu'il y a des gouvernements qui ont fait usage davantage du profilage que d'autres gouvernements. Moi, je pense à Harper, qui est très répressif et que l'opposition lui en veut pas. Je me dis, ça n'a peut-être pas toujours été comme ça au gouvernement, en tout cas, peut-être pas aussi intense.
Aussi intense. Bon, écoute, je pense qu'il y a eu des événements qui ont amené une certaine répression. On se sert ad nauseum du fameux 11 septembre, là, comme étant là, la peur de tout ce qui était la différence, la peur des ethnies, la peur des terrorismes. Mais au-delà de ça, là, c'est une excuse. Ça, ça devient une excuse. Hein? Ça légitime certaines choses parce que, je me rappelle après les événements du 11 septembre, comment est monté le contrôle, les mesures de contrôle qui ont été mises en place. Tu sais, bon, on le sait, ceux qui prennent les transports comme l'avion, c'est rendu compliqué. Mm-hmm. Puis encore là, on peut t'interdire de prendre un type de vol ou autre. Le resserrement aux douanes, hein, il y a eu un resserrement accru aux douanes. T'es vraiment pas bien parti si t'es un arabe puis que tu essaies de passer aux douanes américaines dans certains cas. Et d'autres peuples, là, je ne vais pas focusser sur
moi, ça me faisait penser à l'époque, 1970, les mesures de guerre, ça en était sûrement une mesure aussi qui pouvait se rapprocher à ça.
Bien, c'était une mesure drastique pour... Puis, écoute, on sait toujours bien que... après, on a vu la réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont été victimes d'arrestations qui n'étaient pas du tout des menaces.
Puis qu'on s'est servi d'un événement
et oui.
pour contrôler le reste de la population,
et oui.
créer une peur, un climat de peur.
Effectivement. Fait qu'on c'est pour ça que je disais tout à l'heure, même si pour beaucoup de monde, ça semble anodin d'entendre, il y a eu une manifestation, il y a eu des arrestations, bien, il méritait. Non, c'est le jour où on va venir t'arrêter, parce que là, il y avait un texte à un moment donné que j'avais lu, puis on disait dans ce texte-là, quand ils ont arrêté les Juifs, j'ai pas pris la parole parce que j'étais pas juif. Quand ils ont arrêté les communistes, j'ai pas pris la parole parce que j'étais pas communiste. Quand ils ont arrêté
les syndicalistes,
j'ai pas pris la parole parce que j'étais pas syndicaliste. Puis quand ils sont venus m'arrêter, il y avait plus personne pour prendre la parole. Ça le dit bien, hein? Si on réagit pas, c'est voir les incidences que ça pourrait avoir sur le contrôle absolu. Moi, je le dis, c'est l'État totalitaire, le Big Brother. Je voudrais aussi mentionner, Sandy, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des gouvernements, oui, effectivement, et ce n'est pas un phénomène québécois et canadien, là. Hein? On le vit peut-être davantage, on a peut-être des dirigeants, malheureusement, depuis quelques années, qui sont plus à droite ou d'extrême droite que d'autres dirigeants qu'on a eus dans le passé. M. Harper n'accepte même plus de rencontrer les journalistes où il répond à une question. Non, mais il doit quand même rendre des comptes aux élus, là. Fait qu'on voit bien le contrôle absolu, ça peut être autant... anodin comme ça, le décider que je ne réponds plus aux journalistes et que je ne rends plus de compte à la population. Mmh. Et je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait quand même des groupes qui s'y attardaient plus spécifiquement en termes du droit, comme tu l'as dit très bien. La Ligue a fait un excellent travail, un bon bulletin là-dessus. La Commission des droits de la personne et de la jeunesse, elle a déjà émis des avis, elle a tenu une commission sur le profilage. Donc, on voit qu'il y a des groupes qui réfléchissent drôlement à ça. De ça, il ressort des choses quand même.
Oui, effectivement. Alors, face à ce problème-là, là, est-ce que les groupes dont tu nous parlais ont émis des recommandations, des commentaires auprès des instances comme le gouvernement, les élus et autres?
Oui. Malheureusement, je n'ai pas assisté à la commission. Probablement que si j'avais été à la commission, j'aurais pu faire un bon résumé des grands enjeux qui sont ressortis. Je vais plutôt y aller avec la lecture ou les analyses que j'ai pu voir passer. Oui, il y a eu des recommandations parce que ce que je te dis, c'est que ces groupes-là s'y intéressent, mais je te dirais que mondialement, on est dans le hier aussi. En 2005, l'ONU a pointé du doigt le Québec et le Canada pour les arrestations massives et les agissements des services policiers. Alors, c'est pas juste un son de cloche de 3-4 pelleteux de nuages ou des gauchistes, là. C'est vraiment... À l'international, on est pointé du doigt pour la façon dont on se comporte à essayer de museler la population. Fait que c'est quand même d'une importance assez grande, je crois. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail qui devrait être fait puis qui serait souhaitable de faire. En premier lieu, comme je l'ai dit, comme ça vise beaucoup la répression, ben il y a évidemment un travail à faire au niveau des services de police. Que ce soit au niveau de l'éducation populaire, que ce soit au niveau de la sensibilisation, il y a des agissements qui sont intolérables de la part des policiers, qui doivent être revus. Malheureusement, dans certains cas, et c'est peut-être pour ça que les gens ont parfois moins confiance aux services d'ordre, c'est qu'il y a eu des gestes pour lesquels les policiers ont eu la totale impunité. Alors ça, les groupes qui s'y attardent, comme j'ai dit, ont fait un travail là-dessus de réflexion et ont vraiment demandé à ce qu'il y ait un travail de sensibilisation qui soit fait tant au niveau politique, puis là je dis bien sûr le provincial, bon le fédéral, provincial, municipal, on dirait même aller à l'international, mais on va se concentrer pour le Québec. Donc, travail de sensibilisation auprès des instances comme le pouvoir politique et les services d'ordre, bien sûr. Il faudrait, ou ils veulent s'assurer aussi, ces groupes-là, que tout ce qui a été produit comme avis, que ce soit le rapport du protecteur du citoyen, qui lui aussi dit son son de cloche là-dessus, les avis de la Ligue, les avis de la Commission et les avis de l'ONU, qu'on s'assure qu'il y a un suivi là-dessus et que les mesures qui ont été suggérées soient mises en place. Préparer adéquatement les forces de l'ordre, hein? Je l'ai dit tout à l'heure, probablement qu'il y a des vieux préjugés qui continuent, qui perdurent malheureusement avec les conséquences qu'on connaît. Je pense qu'il faut revoir le système de déontologie policière.
Je ne sais pas comment, au courant de leurs études, les jeunes qui étudient pour être policiers, la question du profilage, de la discrimination est abordée. Mais je pense qu'au niveau de l'éthique, il y a franchement quelque chose à revoir à ce niveau-là.
Bien, effectivement, c'est pour ça qu'on dit revoir la déontologie, que ce soit autant au niveau du comportement, des agissements que des préjugés. Probablement que dans les années 60, bon, il y avait déjà le racisme, là, mais il n'y avait pas le profilage, en tout cas. Il y avait le racisme existant qui avait lui aussi son lot d'affreusité. Mais le profilage était moins flagrant à ce moment-là. Et comme le profilage est en augmentation, il faut qu'on réagisse. Penser que ça va se régler toute seule, c'est vraiment... rêver à l'impossible. Alors, il faut revoir peut-être le système au complet. Et même lors du rapport que je t'ai parlé de l'ONU, le service de police de Montréal a admis qu'il y avait un tort. Donc, il y a un travail à faire là. J'ai parlé tantôt de leur impunité. Moi, je pense que tout acte, on doit porter les conséquences des actes qu'on pose. Mm-hmm. Alors, autant les policiers que les autres, elles ne devraient pas être eux
ils
autres
absolus. Ils sont imputables. Ils doivent être imputables.
Tout à fait, tout à fait. Revoir la réglementation municipale, peut-être que pour ce qui est des attroupements dans les parcs, pour ce qui est de, tu sais, déranger dans le métro et autres, il faut peut-être revoir la réglementation. Malheureusement, la pauvreté n'est pas en train de diminuer. Alors, je pense pas que ces populations-là vont sortir de notre beau paysage, même si on essaie de les museler, de les emprisonner ou autre. Fait qu'il y a peut-être à revoir la réglementation municipale. Arrêter de donner des constats d'infraction, là, parce que quelqu'un a craché à terre. Moi, je crache à terre, j'en aurais pas de constat d'infraction. Mais le jeune de la rue ou le squeegee qui crache à terre, automatiquement, lui, il y a un constat d'infraction. Donc, il y a une réflexion à faire aussi là-dessus, là, la discrimination dont ils sont victimes. Puis arrêter, bon, on leur donne des constats, ils ne sont pas capables de les payer, on les emprisonne. Ils se retrouvent avec un dossier judiciaire. Ouais. C'est un dossier judiciaire, on traîne ça longtemps, là. C'est pas comique. Fait que ça fait partie des recommandations que la Ligue, la Commission et d'autres poussent. Diminuer les délais excessifs. Quand il y a eu des enquêtes, je donnais tantôt l'exemple du jeune Freddy Villanueva là, et d'autres, c'est effrayant les délais qu'ils ont eus. Mm-hmm. Puis comment la Ville de Montréal s'est servie de ses procureurs pour faire obstacle à tout ce qui était la judiciarisation des dossiers, des retardés, décider de ne pas faire d'interrogatoire, pardon, excusez si ça m'a pris du temps à le dire, là, mais l'interrogatoire a pris un temps fou. On a mis de la pression sur les familles des victimes, ces choses-là. Fait que ça, c'est aussi à revoir et ce n'est pas normal dans un système comme on vit avec le pays qu'on a tout de même. Là, que...
Manon, j'imagine, ça vient de me popper dans la tête, j'imagine que les médias ont un rôle à jouer aussi là-dedans.
Les médias ont toujours des rôles à jouer. Ce sont eux qui transmettent l'information. Il faut voir quel type d'information que les médias décident de véhiculer. Mm-hmm. Si au départ... Parce que malheureusement, les médias, là, quand c'est des médias qui appartiennent aux familles qu'on connaît, je pense que... Je ne dis pas que les journalistes ne font pas du bon travail. Je veux pas, monsieur et madame les journalistes, je ne veux pas devenir votre ennemi. Mais je pense qu'eux autres aussi sont muselés. Mm-hmm. Ils ne disent pas peut-être tout ce qu'ils auraient envie de dire. On voit plus ça dans la presse libre, là, qu'est-ce qui sont les réelles pensées. Mais effectivement, que les préjugés qui sont véhiculés ou la façon dont on aborde, hein, souvent on peut voir juste dans le titre d'un article, il faut que ça soit accrocheur, vendeur. Moi, j'appelle ça du jaunisme, là, du journalisme jaune, là, que c'est vraiment pas nécessaire. Et que c'est juste vendeur, accrocheur et porteur de préjugés. Oui, les médias ont un rôle à jouer. Tous les médias ont un rôle à jouer sur ça. On l'a dit tout à l'heure, garantir l'impartialité puis l'impunité. Parce que si tu as une enquête, mais que c'est quelqu'un coller sur le service policier qui fait l'enquête, ben ça va peut-être fausser la donne. Fait que l'impartialité, l'impunité, c'est très important. On en a tous, nous autres, des droits et des obligations par rapport à ça. La transparence, hein, mm-hmm. en même temps que l'impartialité, l'impunité, la transparence, je l'ai dit tout à l'heure, l'indépendance des personnes qui seraient en lien. On ne veut pas avoir un procureur qui est l'ami d'un policier. Fait que il y a beaucoup, beaucoup de choses à revoir. Je ne sais pas où en est la Ville de Montréal, parce que j'ai beaucoup pris ces données-là par rapport à la Ville de Montréal. J'imagine que toutes les villes sont victimes de ça. Mais on en entend sûrement moins parler. Mm-hmm. À Sherbrooke, on n'a pas vu beaucoup d'articles ou de réactions des médias par rapport à du profilage. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on n'en entend pas parler qu'il n'y en a pas. Je pense qu'ici, on pourrait parler d'un profilage de quartier. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de préjugés par rapport au quartier que tu habites à Sherbrooke. Fait que c'est un peu ça le portrait là, de ce que les groupes ont demandé. Mais Sandy, je suis certaine qu'il y a plus élaboré que ça. Vous pouvez d'ailleurs aller consulter les sites. Si vous allez à la Ligue des droits et libertés puis que vous tapez sur leur parution, vous allez pouvoir avoir accès à un bulletin qui, je crois, s'appelait « Profilage et discrimination ». La même chose si vous allez sur le site de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Toutes leurs parutions sont sur leur site. Il est sûrement possible d'avoir accès à leur avis ou à leur commission, les actes de la commission, ces choses-là. Alors, je vous invite peut-être à aller voir plus loin un peu que ce que je vous ai dit. Moi, je voulais juste vous sensibiliser, là, mais je n'étais pas là pour vous donner un cours sur le profilage.
Manon, là-dessus, je pense qu'on va aller en petite pause musicale et au retour, ben on va lier toute la question du profilage à l'emploi. Parfait. Alors, on revient dans 5 minutes.
Fragile petit matin sans pluie, que mon parapluie garde en respect. Mais le ciel est tout chagrin, et s'il avait deux mains, il chagrinerait. Je marche inquiété de me noyer dans l'orage, et je compte au passage les chauffards qui ont le doigt dans le nez. Mais reste debout. C'est comme être 100 milliards sur la lune pour un soir. Ça tire dans le cou. Je regarde les aiguilles de mon temps. J'ai une fille dans le sang. Si j'arrive en retard, elle va m'engueuler. Et ça sent soulève la terre de chaste baisers. Parce que je suis libre comme l'air, libre de faire demi-tour. Je vais continuer. Une jeune fille, une maille à la cheville, belle, elle me dit: pardon, cher monsieur, est-ce à vous ceci? Je prends un air ébahi, je m'écris: ah, mon parapluie! Elle l'a trouvé par terre, comme un cœur presque ouvert, comme le mien pour ses yeux verts. Pourquoi faut-il le temps file? Et ça sent la poussière, le vent soulève la terre de chaste baisers. Parce que je suis libre comme l'air, libre de faire demi-tour. l'air de tout savoir. Mais au fond, je ne sais rien, enfin, presque rien. Une coche foutue d'une poire. Mais c'est bien suffisant pour aimer tendrement et avoir une idée de ce qu'est la liberté. Et ça sent la poussière, le vent embrasse la terre de chaste baiser. Parce que je suis libre comme l'air, libre de faire demi-tour, je vais continuer. Et ça sent la poussière, le vent soulève la terre, de chaste baiser. Parce que je suis libre comme l'air, libre de faire demi-tour, je vais continuer,
Bonjour et bienvenue à l'émission La Complainte du Travail. Bien, c'est le dernier segment de l'émission. Alors, on vous rappelle qu'aujourd'hui, le sujet, c'est le profilage. Et on était rendu à est-ce que le profilage a une incidence sur l'emploi, Manon? C'est ça ma question.
En fait, non. Parce que le profilage, c'est vraiment plus ce que j'ai dit tout à l'heure, des mesures répressives. Et si on parle d'incidence, on va parler de discrimination. Le profilage, je l'ai répété tout à l'heure, c'est vraiment des mesures répressives dans plusieurs cas, des préjugés envers des catégories de personnes. Mais quand on parle face à l'emploi, on va plutôt parler de discrimination. Puis on reconnaît beaucoup de phénomènes encore là qui sont de la discrimination. Je vais en nommer quelques-uns puis donner des exemples. Fait que ça va peut-être aider aux auditeurs et aux auditrices à mieux comprendre. Il existe bien sûr la discrimination raciale, hein, ça le dit. La couleur de la peau, le pays d'origine, l'ethnie à laquelle on appartient. Puis encore là, on peut le démontrer. Moi, je suis allée à des colloques où on a vu l'intégration en emploi des personnes immigrantes et c'était clairement dit. Les bons emplois sont davantage détenus souvent par des personnes qui proviennent de l'Europe que les personnes qui proviennent de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud ou ces choses-là, ou du Moyen-Orient. Donc, oui, il existe une discrimination raciale. La discrimination sur la condition sociale, si tu es une personne prestataire de l'aide sociale puis que tu te cherches un emploi et que tu dis à ton futur éventuel employeur que tu es sur l'aide sociale, il va probablement partir avec un préjugé défavorable à l'embauche. Parce que pour lui, tu vas avoir été une personne qui n'aura pas été en emploi pendant un certain temps.
Trop éloignée. C'est ça. On dit tout de suite, si le profilage fait vraiment pas profilage, la discrimination, c'est une personne qui ne travaille pas, quelque chose qui est totalement faux.
Mais... C'est ça. Fait qu'il y a cette discrimination-là qui existe en lien avec l'emploi. La discrimination en fonction du sexe. On le sait, on l'a dit, redit, les vieilles féministes le savent comme moi, qu'être une femme, ça l'ouvre moins de portes. Mmh. C'est moins vrai que c'était, mais ça reste encore vrai. Quand on dit que les femmes ont gagné beaucoup et elles ont évolué beaucoup au niveau du marché du travail, on peut encore dire que les postes de haute direction, c'est pas les femmes, puis il n'y a pas beaucoup de femmes premières ministres ou présidentes. La discrimination sur l'orientation sexuelle, écoutez, c'est pas tellement éloigné que nous autres. Hein? Moi, je me souviens d'avoir vu ça passer, puis ça fait pas tant d'années que ça. L'armée qui refusait des candidats ou des candidates s'ils pouvaient faire la démonstration que ces personnes-là étaient soit gays ou lesbiennes. Il y a eu des procès, ils ont été obligés de revoir leur façon de faire, leur pratique, et c'est tant mieux, oui. Mais ça veut dire que ça
puis
existe
encore. Puis ils ont été obligés d'indemniser les personnes lésées aussi, oui, ça, je me
oui.
souviens
de oui, ça. Oui, ça, c'est intéressant, on finira avec ça, oui. Sandy. La discrimination en fonction de la religion, je ne sais pas, là, mais si vous portez un voile, un kirpan, si vous avez un objet quelconque qui peut vous identifier sur votre religion, ou encore si vous demandez un local pour vos prières à l'embauche, c'est pas évident que vous êtes winner.
Puis quand on parle de discrimination en emploi, c'est autant pour l'accessibilité à un emploi que oui, j'imagine on parle
est
de...
encore en emploi. Oui, oui.
Ça peut augmenter les risques d'harcèlement dans le milieu de travail.
En fait, ça peut être carrément lors de l'embauche, bien sûr, mais ça peut être en cours d'emploi, là, si à un moment donné, on demande une mesure d'accommodement ou autre, ou qu'il arrive une situation, on est une femme, on a besoin de partir pour aller chez le dentiste, pour demander notre employeur dit, écoute, c'est parce que tu es une femme, là, c'est encore un problème de femme, là, c'est vraiment une discrimination en fonction du sexe. Mm-hmm. Il en reste d'autres, comme l'handicap physique, hein, les convictions politiques, la grossesse, la langue, l'âge.
Puis, qu'est-ce qu'ils font, les gens qui sont victimes de ça?
Eh bien, ils déposent des plaintes. En fait, il faut savoir qu'on n'est pas garant que ça n'existe pas, sauf qu'on n'est pas obligé de le subir. C'est ça la différence. C'est que toute personne qui se croit victime d'un cas de discrimination peut déposer une plainte. C'est en sachant ça dans la Charte des droits et libertés au Québec comme au Canada, que vous soyez de juridiction provinciale ou fédérale à votre emploi, vous avez une charte qui vous protège et c'est des motifs de plainte. Alors, vous pouvez déposer des plaintes. C'est la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui va les traiter au Québec. C'est la Commission canadienne des droits au niveau du Canada. Alors, n'hésitez pas. Là, si vous croyez être victime de discrimination à l'embauche ou lors d'un emploi, déposer une plainte. En région, nous, on a la chance d'avoir la Ligue des droits et libertés mm-hmm. qui peut s'attaquer à ce problème-là, ce phénomène-là, qui peut sûrement vous accompagner si vous avez à déposer des plaintes en fonction de discrimination. Mais n'oubliez pas, il est important de ne pas tolérer l'intolérable.
Exactement. Merci, Manon. C'est un beau mot de la fin. Je trouve que ça termine super bien. Alors, je rappelle aux gens que s'ils veulent réentendre l'émission, laissez-nous quelques semaines, on va la mettre sur notre blog. Alors, vous pouvez aller voir notre site Internet www.illusion.org.
On va le recommencer. www.illusion.org, c'est
merci.
Ça.
Désolée. Tapez Illusion Emploi, vous allez le trouver de toute façon.
Je pense que ça va être l'idéal. Je pense que moi aussi, je viens de me tromper. Je pense que c'est www.illusionemploi.org. Et notre courriel, lui, c'est illusion@aide-point.org.
Excellent. Alors, vous pouvez nous écouter en rediffusion. Vous ne vous gênez pas si jamais on sait tout. Je vais vous dire une chose. Si jamais on a tout scrappé ce qu'il fallait vous dire pour que vous nous retraciez sur Internet, téléphonez-nous 819-569-9993. Sur ça, on vous laisse. On vous souhaite une belle journée. Bye-bye.
Bye.